des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Antoine Robitaille. Le philosophe de la politique. Là-haut sur la colline.
Cube Radio.
L'ancienne vice-première ministre Nathalie Normandeau et ses 5 co-accusés ont été tous libérés ce matin des chefs d'accusation qui pesaient contre eux dans ces fameuses enquêtes de l'UPAC. Pour en discuter avec moi, deux membres du bureau d'enquête, de notre bureau d'enquête, Alexandre Robillard en studio. Bonjour Alexandre.
Buongiorno.
Et Nicolas Lachance au bout du fil. Bonjour Nicolas.
Bonjour messieurs.
Alors Nicolas, est-ce que c'est une surprise là, cet arrêt des procédures finalement, le fait que Nathalie Normandeau s'en sort?
Non, selon les délais, c'est pas une surprise, mais oui pour la population sans doute qui attendait d'obtenir des réponses concernant cette enquête et ses arrestations.
Alexandre, est-ce que c'est une surprise?
Ben moi, je suis sous le choc. Hein. De toute façon, je te l'ai dit, Antoine, là, c'est une décision que...
C'est pour ça que je voulais que tu viennes en studio, parce que vous deux, là, vous avez travaillé sur cette histoire-là à tour de rôle. On a écrit le livre aussi, PLQ Inc., où il est question des affaires entourant Mme Normandeau. Et ce matin, c'est vraiment comme la fin d'un épisode.
Un épisode absolument... que j'ai couvert aussi là, au Palais de justice. Moi, j'étais ici le jour du budget. En fait, c'était un des budgets que je n'ai pas couvert dans le huis clos du budget. J'étais ici au Parlement.
Ah, moi aussi, c'est un des seuls où je ne suis pas allé en 15 ans.
Donc, j'ai vécu la nouvelle.
Parce qu'il faut rappeler aux gens là, que Nathalie Normandeau a été arrêtée un jour de budget en 2016.
Hein? Oui.
Donc, le matin même. Et habituellement, là, sur la colline, tout le monde se prépare à aller au huis clos du budget pour découvrir cet important document de l'année gouvernementale.
Et c'est vous aller au budget? Moi, j'étais au budget ce jour-là.
J'étais au budget en mars 2016.
C'était la promotion là, dans l'entrée là,
ben oui.
Du Centre des congrès.
Moi, j'étais censé y aller. J'avais réservé ma place et tout ça. Puis paf, je n'ai pas pu y aller. Puis j'ai travaillé sur l'affaire Normandeau ce matin-là aussi.
Et c'était un budget... très important à l'époque, c'était le retour à l'équilibre budgétaire. Les libéraux allaient annoncer de nombreuses mesures qui mettaient un terme un peu à l'austérité qu'on venait de vivre.
Ah oui.
Ça a passé complètement sous silence.
Exactement.
Au deuxième rang. Là. Donc, ça a été un échec pour les libéraux, le plan de communication de ce budget-là qui devait être le retour aux jours heureux.
C'est ça. Alexandre, donc, t'as pas pu aller au budget aussi ce jour-là?
En fait, c'était pas prévu que j'y aille, c'était prévu que je reste couvrir l'Assemblée nationale ce jour-là. On faisait ça à tour de rôle dans l'équipe de la presse canadienne où j'étais à ce moment-là. Ça fait probablement partie des plus gros événements là, que j'ai vécu d'aussi près. Là. Je veux dire, il y a des politiques, en tout cas, là, ça, faut les situer. Mais la magnitude de ce fait-là, de cette opération policière-là qui ciblait Mme Normandeau, Marc-Yvan Côté, qui était un ancien ministre... libéral du gouvernement Bourassa, donc qui lui aussi aujourd'hui a été libéré des accusations. Et je pense que c'est grave, là, c'est ce qui se passe aujourd'hui, la décision d'aujourd'hui.
Pourquoi c'est grave, Alexandre?
Parce que moi, j'étais très hésitant à m'exprimer à chaud là-dessus parce que quand je dis que je suis sous le choc, c'est vrai. Là. Je pense qu'on est devant une décision. Effectivement, on était au courant des recours que les accusés exerçaient. Donc, la probabilité d'une décision dans un sens ou dans l'autre était difficile à évaluer.
Ouais.
Mais je veux dire, on n'est pas devant une surprise. Mais c'est grave parce que ça arrive après une succession de d'échecs à voir clair dans un paquet d'allégations qui planent sur la politique québécoise depuis au moins 2009. On a eu une commission d'enquête qui s'est terminée sur une dissension concernant le lien entre le financement politique et l'octroi de contrats. On sait que l'ex-premier ministre Jean Charest a été ou est toujours sous enquête. On a une ex-vice-première ministre qui a été arrêtée, donc Mme Normandeau, en même temps qu'un autre ex-ministre d'un gouvernement précédent, M. Côté. On a plus récemment un député qui a été arrêté et jamais accusé. On a un patron de l'UPAC qui a quitté l'UPAC juste après avoir essuyé un revers devant les tribunaux dans un dossier qui concernait ce même député-là.
Ouais.
On sait qu'il y a une culture d'influence qui lie les firmes de génie et les décideurs publics depuis des décennies. À ce sujet-là, si je peux me permettre une petite parenthèse, je suis en train de lire un livre qui dont le titre est « Les ficelles du pouvoir
mm-hmm. »,
dont nul autre que Guy Ouellet parlait dans son livre. C'est très intéressant parce que ça établit de façon très claire tous les liens entre le politique et les services de génie conseil au Québec. Donc, c'est un livre qui remonte aux années 90 puis qui est très clair là-dessus. Donc, c'est important de rappeler que la présomption d'innocence la plus stricte s'impose dans ce dossier-là.
Le juge l'a rappelé, d'ailleurs.
Absolument. Et je pense que Mme Normandeau et M. Côté ont certainement d'excellentes raisons de célébrer cette décision-là comme une victoire. Ça je pense qu'on ne peut pas leur reprocher ça. Mais on est devant l'incapacité à voir clair, à disposer d'une image nette quant à la moralité de nos élus. Puis je pense que Mme Normandeau n'était pas dupe de la décision qui était rendue aujourd'hui. Elle-même disait tout à l'heure que ça aurait été... Elle aurait aimé que ce soit un procès qui l'exonère complètement. Là, encore une fois, on présume de son innocence la plus complète. Mais c'est vrai que je pense que même pour l'opinion publique, on est perdant dans ça. Je pense que les citoyens et citoyennes du Québec, ils méritaient d'avoir un processus complet.
Nicolas, tu as écrit sur le fait que Nathalie Normandeau avait soutenu avoir offert de rencontrer l'UPAC pour s'expliquer 3 ans avant son arrestation. Parle-nous de ces faits-là, en rétrospective, là, maintenant qu'on voit que Nathalie Normandeau est libérée de toute accusation.
Dès le départ, dès le 17 mars 2016, là, lors de son arrestation, Mme Normandeau a affirmé en pleurs aux enquêteurs ici à Québec, là, au siège social de la Sûreté du Québec, qu'elle avait voulu participer à cette enquête-là, qu'elle était prête à collaborer et que jamais les hautes instances de l'UPAC ont accepté ces récriminations. Du côté de l'UPAC, on a toujours affirmé, selon la preuve, que Mme Normandeau ne voulait pas discuter toutefois sans son avocat, ce qui ne se ferait pas habituellement dans la coutume policière. Donc, si on a des choses à affirmer dans le cadre d'une enquête et qu'on veut participer, donc c'est son propre gré, ce n'est pas entouré de ses avocats. Donc, c'est un peu là qu'il y avait, c'est ici qu'il y avait un certain nœud là, dans l'histoire. Ça reste que les enquêteurs ont ce jour-là quand même mis quatre sur table là, avec Mme Normandeau en élaborant plusieurs preuves qui étaient au dossier. Des preuves qu'on a écrites dans le livre PLQ Inc.
Oui.
Des preuves qui pourraient rester longtemps, qui pourraient créer un doute dans l'esprit de la population pendant encore longtemps, vu qu'il n'y aura pas eu de procès et qu'elle n'aura pas pu se défendre. Les enquêteurs, là, ils ont recueilli des témoignages liés aux rétributions exigées par l'entourage de Nathalie Normandeau auprès de firmes d'ingénierie lorsqu'elle était ministre des Affaires municipales. Ça va rester, ça, dans l'esprit des gens.
Mm-hmm.
Aussi, le financement politique, les dons qui ont été donnés alors qu'elle était présente à ces soirées de financement politique. Peut-être aussi le doute concernant des contrats ou des enveloppes qui auraient été remis durant ces soirées-là. Donc, ce doute-là reste. On ne saura jamais le fond de l'histoire, finalement.
À moins qu'il y ait...
Appel.
Oui, c'est ça. Il pourrait y avoir appel de la part du directeur des poursuites criminelles et pénales. Penses-tu que c'est possible, Alexandre?
Bien, on a vu monsieur le procureur du DPCP...
sonner complètement.
Oui, je pense qu'il était... Malgré son masque, on pouvait imaginer son visage décomposé. Mais... Je pense que lui-même disait qu'il était trop tôt pour évaluer les possibilités d'appel. Moi, n'étant qu'un humble journaliste, je pense que ce serait très audacieux pour moi de m'avancer sur les prises DPCP dans ce dossier-là pour aller plus loin.
C'est rare que des ministres sont arrêtés et accusés au Québec. Hein? des gens aussi haut placés, des élus, tout ça, qui ont, comme Mme Normandeau, été vice-présidente, vice-première ministre, c'est pas rien. Et ça se termine en eau de boutin. Est-ce que ça, c'est pas décourageant, Nicolas?
Bien, oui, parce que pour une fois, on avait l'impression que la justice était peut-être au-dessus, justement, du pouvoir qui pouvait peut-être traficoter dans le dos de la population. Pour une fois, ce n'était plus que des oui-dire, c'était donc des faits qui étaient présentés devant un tribunal. Donc, il y avait beaucoup d'espoir qui était mis devant ça. Maintenant, on parle du DPCP, on parle de l'UPAC. Clairement, ils devront rendre des comptes. C'est grave là, de prendre 4 ans comme ça. Autant pour les accusés qui dans ce dossier-là, Mme Normandeau l'a dit en sortant du tribunal, c'est 4 ans de sa vie qui a été volé. Donc, autant pour ces accusés-là que pour la population qui attendait beaucoup de ce procès-là, écoutez, il y a des comptes qui devront être rendus. Là.
L'impression que ça laisse, Alexandre, c'est que on a essayé de s'attaquer au pouvoir, puis depuis, on va de décomposition en décomposition. Je veux dire, même le chef du corps de police qui a arrêté Mme Normandeau, Robert Lafrenière, est parti avant la fin de son mandat, le jour des élections en 2018. Tout est bizarre dans cette affaire-là.
On dirait que le verre est dans la pomme.
Ouais.
Hein? Et puis, moi, je trouve ça malheureusement dommageable pour
les institutions.
Les institutions.
Ouais.
Pour la démocratie, puis pour la confiance de la population.
La confiance de la population.
Ouais. Envers les institutions. Puis c'est pour ça que je suis sous le choc, parce que j'ai l'impression qu'on n'arrête pas de se retrouver devant une espèce de magma, de couches superposées à travers lesquelles on n'est jamais capable de passer à travers pour arriver... C'est le plus proche possible de la vérité, en fait. Puis on a l'impression que c'est toujours...
Mais c'est pour ça que c'est important qu'on collige tout ce qu'on avait trouvé dans un livre. Et je pense que le livre est là, il existe. C'est pas du tout une institution.
Il y a des faits.
Mais il y a des faits qu'on a exposés.
C'est les faits qui sont là.
On a colligé.
Il y a quand même
ce livre-là, hein, Nicolas?
Des faits qui ont été amassés par la police.
C'est énorme. On a parlé de Marc-Yvan Côté, d'Athénée Normandeau, mais moi, écoute, l'un des personnages qui s'en sort et qui a laissé le plus sa trace dans ce dossier-là, c'est Bruno Lortie, l'ancien chef de cabinet de Mme Normandeau. Dans le livre, on dépeint le personnage aussi, comment il était vulgaire, comment il était proche de Marc-Yvan Côté.
On décrit le type de politique qu'il préconisait.
Exact. Et le type de politique qui pourra préconiser dans l'avenir, si parce que... C'est plate à dire, mais il n'y aura jamais eu de conséquences. Donc, les chances que ce genre de choses-là se reproduisent dans le futur au Québec sont là. On ouvre la porte, finalement, à peut-être certains autres politiciens ou entrepreneurs qui se diront, « Bon, regarde, même le plus grand scandale de l'histoire du Québec et de la corruption s'est terminé sans égratignure. On va trouver autre chose maintenant. »
Alexandre, en terminant?
Ben, moi, je trouve que effectivement, la question qui se pose, c'est de dire quelle capacité on a de tirer les choses au clair quand il y a des questions qui se posent sur les décideurs publics, donc ou leur entourage, ou les personnes avec qui ils interagissent, mais... Malheureusement, le constat qu'on est obligé de faire, c'est que c'est extrêmement difficile, puis voire impossible.
Ben merci beaucoup, Alexandre Robillard et Nicolas Lachance, tous deux de notre bureau d'enquête. Cube Radio.